d'experts, une émission avec Benjamin Darmoni, président du cabinet Maurice Burgère sur Radio Immo.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Voilà, c'est la rentrée de septembre 2024. Notre prochaine saison s'annonce avec beaucoup d'actualités, bien sûr, autour du logement. Vous êtes sur Radio Immo pour le 16e numéro, 16e opus, David Expert, accompagné, comme d'ailleurs chaque numéro, avec Benjamin Darmoni. Bonjour.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va, Benjamin ?
Très bien, très en forme.
Vous avez passé un bel été ?
Écoutez, on s'est bien reposé.
Bon, écoutez, en plus, heureusement que vous êtes bien reposé, puisqu'on a une rentrée début septembre qui est quand même assez forte, puisque l'actualité du jour, dont les journaux d'ailleurs ont bien sûr beaucoup parlé à la télévision, à la radio, on a enfin, après plus de 50 jours, un Premier ministre. On va attendre la nomination du gouvernement. Voilà, donc 16e numéro, David Expert. Vous nous retrouverez bien sûr, les amis, comme c'est l'usage, tous les mois. Alors, on était un petit peu moins présents pour l'année, la précédente saison, mais dès cette année, avec ce 16e numéro avec Benjamin, vous nous retrouverez bien sûr pour ce numéro David Expert tous les mois. Je vous rappelle le concept. On évoque des sujets et avec Benjamin, en mode éditorialiste, on critique, on évoque ou on donne des pistes pour l'actualité du logement. Première partie, Benjamin, on le voit, la nomination de Michel Barnier, un vieux routier de la politique, commissaire aux affaires européennes, qui a négocié effectivement le fameux Brexit avec Boris Johnson, qui d'ailleurs, ce dernier, ne tarissait pas d'éloges à son égard, qui a aussi présidé au comité olympique, vous savez, pour les Jeux olympiques d'Albertville, à l'époque, qui a été en son temps l'un des plus jeunes députés de l'Assemblée nationale. Il est originaire de l'Isère, il est né à La Tronche, exactement, dans la banlieue de Grenoble. Quelqu'un qui apparaît quand même comme étant l'homme du consensus. Je voudrais juste vous faire réagir aussi sur un post que j'ai relevé sur LinkedIn par Olivier Salleron, qui a republié ce post, où on voit Olivier Salleron, président de la Fédération française du bâtiment, tendre un rapport sur le logement avec quelques éloges faits à Michel Barnier, sans présumer un seul instant qu'il allait devenir le Premier ministre. Comment vous ? Vous, Benjamin Darmoni, donc président du cabinet Michel Burger, ainsi que vous êtes à la tête aussi du Cercle des managers de l'immobilier, qui est le grand raout qui rassemble la profession régulièrement animée par l'excellent Henri Buzicazo. Et vous êtes également, bien sûr, très engagé syndicalement au sein de l'UNIS. D'ailleurs, on se demande à quel moment vous dormez un peu, parce que vous êtes toujours doté d'une suractivité. Comment vous, en tant que professionnel, comment l'UNIS accueille la nomination du Premier ministre Michel Barnier?
Alors déjà, je pense qu'on aurait pu appeler cette émission Avis de recherche, parce qu'on l'a, on l'a longuement attendu. Et on accueille évidemment cette nomination avec beaucoup d'optimisme, parce que Michel Barnier est un homme d'une grande expérience de l'État. C'est un travailleur, il est rigoureux, il est sérieux, et il est à la hauteur, je l'espère, de la tâche.
Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il a une appétence pour le logement ? Vous le pressentez, vous espérez ?
Je ne sais pas s'il a une appétence pour le logement. Tout ce que je sais, c'est qu'il a été ministre de l'Environnement, sauf erreur de ma part, en 1993, et c'était sous le gouvernement Balladur. Je pense qu'avec son expérience, il est en mesure de pouvoir s'occuper d'un dossier aussi compliqué que le logement avec la crise que nous vivons.
Le logement, c'est un point important, puisque je voulais qu'on fasse, si vous voulez bien, dans la deuxième partie, effectivement, on va attendre d'ailleurs que le gouvernement nomme éventuellement Premier ministre. Est-ce que vous souhaitez toujours un ministre d'État pour le logement ?
Évidemment. Un ministre du logement en plein exercice, un ministère d'État depuis le temps qu'on l'attend, et on n'arrête pas de dire c'est la solution. Alors on a très peu d'espoir, puisque effectivement les gouvernements successifs n'ont jamais donné la place qu'il fallait au logement. Mais il est encore temps de bien faire.
Question, justement, quand vous entendez, par exemple, le président Emmanuel Macron dire que un des prochains enjeux du prochain Premier ministre sera, par exemple, après la claque prise aux Européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale, sera le logement. Quand vous entendez Gabriel Attal dans son discours de départ à Matignon qui parle du logement, quand vous entendez, par exemple, Bruno Le Maire faire son mea culpa en disant que s'il y a un dossier sur lequel il aurait dû se pencher un peu plus, c'est le logement. Ça vous laisse comment ? Dubitatif ou plutôt...
Vous me connaissez, Sylvain ?
Oui.
Moi, je suis franc et honnête.
Oui.
De qui se moque-t-on ?
Oui.
De qui se moque-t-on ?
On l'a c'est dit, clair.
Répété.
Oui.
Répété. Et rien n'a été
fait. Et c'est vrai que les solutions, vous les avez...
On les a proposées. Alors, effectivement, la tâche de ce nouveau Premier ministre avec, nous l'espérons, un ministre du logement... en pleine capacité et avec le pouvoir et avec le budget. C'est ça dont nous rêvons. Parce que c'est toujours bien de nommer un ministre. Mais s'il est pieds et poings liés avec... Et s'il est rattaché, par exemple, à Bercy, bah, rien ne se passera. Puisque n'ayant plus d'argent, il pourra plus rien faire. Alors, il est face à une tâche où il va devoir... notre Premier ministre va devoir mener des urgences. Mais à qui va-t-il devoir parler en urgence ? Aux élus locaux. Le marché de la promotion est en déclin. C'est une catastrophe. L'aménagement du territoire. Les zones de zéro artificialisation. Les Français n'arrivent plus à se loger. Mais vous reprenez nos premières émissions. On disait la même chose. J'invite d'ailleurs peut-être, monsieur le ministre, sans aucune prétention, à les écouter.
Alors justement, on va parler du marché qui, ça s'arrange pas trop, hein, pour dire la vérité, même si effectivement on observe, on va égrener quelques chiffres, on observe quand même une légère reprise. Je reprends simplement plusieurs facteurs. Je vais d'abord prendre les taux d'intérêt d'octroi du crédit sur le marché de la transaction immobilière, dont on imagine que cette année, fin 2024, l'atterrissage sera aux alentours des 800-830 000 transactions. Est-ce que vous avez ou pas les mêmes chiffres ? On en parlera. On voit que les taux de crédit, les taux directeurs de la BCE ont encore baissé au mois d'août. On arrive maintenant à emprunter entre 3 et 3,30 environ sur des crédits à 20 ans, ce qui était quand même pas tout à fait le cas précédemment, même si en juin 2024, les points de base, enfin les taux d'intérêt avaient baissé de 0,25%. Est-ce que c'est un indicateur de reprise ? On va parler d'abord de la transaction immobilière.
Indicateur de reprise très très doux, oui, mais dans les 400 000 transactions qui n'auront pas eu lieu en 2024 et qui ont eu lieu en 2023 en plus, moi, il me manque vraiment quelque chose. Les primo-accédants qui ont été expulsés du marché de l'acquisition de biens immobiliers aujourd'hui. Parce que on a beau me dire que les taux baissent, ça reste des taux qui ferment le marché aux primo-accédants. Je suis désolé de le dire.
Mais qu'est-ce qui ferme le marché au primo-accédant ? Est-ce que c'est les
taux
de crédit ou
c'est le taux.
Oui, mais pourquoi vous... Alors, ok, je vous suis, mais moi, je pourrais vous répondre aussi que c'est les prix prohibitifs d'accès au logement.
Mais les marchés sont en train de baisser, sinon.
Non, mais est-ce que les... Oui, mais est-ce que les prix... Bah, pas tant que ça, quand on imagine. Alors, je prends l'Île-de-France.
Oui.
D'accord, je vais prendre Paris. Vous connaissez bien, puisque vous êtes aujourd'hui... On est à entre 3 et maximum 5% de baisse.
Mais dans le réalisme de l'agence que je dirige... on est entre moins 12 et moins 17.
À Paris.
Je m'interroge.
À Paris.
À Paris, exactement.
C'est fou. Là, je vous donne des chiffres en moyenne. Hein. Vous avez... Alors, non, mais dans votre activité... Je veux bien. Oui, non, mais sur vos transactions, donc je vois bien. Mais sur la moyenne parisienne, d'avoir des baisses qui sont finalement relativement... Alors, faible, vous me direz, 3-5%, c'est pas neutre non plus quand on achète un bien à 300, 500, 600 ou 700 000 euros. C'est pas le sujet. Mais comment on fait pour justement influer sur les prix et relancer le marché ? Parce que vous pensez que il y a que les taux d'intérêt qui peuvent favoriser le retour du marché.
Sincèrement, je pense que oui, les taux d'intérêt sont un facteur. essentielles pour lesquelles aujourd'hui les ménages, les primo-accédants ne peuvent plus acheter. Sur les fameux 800 000 ventes, l'atterrissage fin 2024, sur les fameuses 800 000 ventes, si on retire toutes les ventes qu'on voit hors marché, si on retire tous les institutionnels, si on retire tous les mandats exclusifs que certains professionnels comme les administrateurs de biens ont, et donc finalement qui ne rentrent pas réellement dans le marché, j'aimerais bien savoir combien il reste. J'aimerais bien savoir combien il reste. Aujourd'hui, promenez-vous dans les rues. Moi, je parle de la ville que je connais, la ville que j'aime, c'est Paris. Mais les agences ferment les unes derrière les autres. Syndicalement, on sait que les agences de transaction souffrent énormément. Et je ne parle même pas des mandataires.
On parle de 40% au niveau économique. Certaines agences immobilières ont baissé leur chiffre d'affaires, leur vente de plus de 30 ou 40%, ce qui est énorme. Mais c'est vrai, et les chiffres sont têtus, pardonnez-moi, les baisses moyennes sur Paris ne sont pas significatives. Est-ce que ça veut dire que les propriétaires attendent encore? Est-ce que ça veut dire que les projets, les porteurs de projets, ils restent dans leur contrat de location? Et effectivement, ça influe sur le marché locatif, dont d'ailleurs, je viens d'avoir les statistiques, je peux vous dire que c'est dramatique, puisque on n'est pas loin des 40% de baisse d'offres locatives en globalité, quand même.
Alors écoutez, sinon on va prendre un exemple et un facteur qui ne trompe pas. Vous savez que je fais de la gestion locative au sein de mon cabinet, et je fais de la transaction. En gestion locative, nous n'avons plus de biens à louer. Pourquoi ?
Donc vous confirmez le fait
mais on confirme que comme
on est sur une chute vertigineuse d'offres à la location.
Mais évidemment. Et il y a un statu quo. Comme les clients primo-accédants qui étaient en location ne peuvent pas acheter, ils ne déménagent pas.
Et les propriétaires ne baisseront pas leurs prix.
Et donc on n'a pas de turnover en location.
Donc, revenons sur les prix. Désolé, je vous le dis.
Oui.
Les prix ne baissent pas. Les taux d'intérêt réduisent un peu, mais pas trop. Donc du coup, on a des propriétaires qui ne veulent pas vendre parce qu'ils n'entendent pas la
exactement.
Baisse de prix.
Et d'ailleurs, c'est simple. Un client qui vient me voir en me disant « Vous gérez mon bien, est-ce que c'est le moment de vendre ?» La réponse est « Non ». Sauf si vous y êtes obligé et sauf si vous avez accepté une grosse baisse de prix.
D'accord.
Ils ne vendent pas.
Donc, vous avez fait quelques transactions récemment. Est-ce que...
À moins 15.
Vous avez... Ah oui, d'accord.
À moins 15.
À moins 15. Ah oui.
C'est pour ça que je vous le dis. En fait, j'ai une certaine admiration.
J'envoie un message. Si on veut acheter un bien immobilier sur Paris, il faut aller chez CAB.
Mais allez-y. Mais moi, j'ai l'honnêteté de le dire. Et j'ai l'honnêteté de le dire et de l'écrire. Et je suis omnubilé par les madame Irma de l'immobilier qui pensent qu'en le disant, ça va arriver. Non mais, sincèrement.
C'est de la méthode Coué, quoi.
Mais ouais, oui. Ouais. Et moi, je leur dis, mais attendez, en tout cas, de ce qu'on en voit, au prix du marché d'il y a 2 ans, mais on est largement à moins 15.
Alors, d'autres chiffres qui sont quand même éloquents et quand même vraiment assez tragiques, parce qu'il y a quand même des Français qui n'arrivent pas à se loger et qui vivent soit dans de l'habitat d'urgence, soit dans de l'habitat contraint du style avec des enfants où on est entre 2 et 3 enfants par chambre, enfin ça devient absolument impossible. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'y a quasiment plus de surface vide dans Paris, sinon en meublé, les petites surfaces, plus de bail vide, plus de bail long terme, plus de bail long, du bail de 3 ans. On trouve du meublé professionnel, on trouve du LMNP, on trouve beaucoup de locations saisonnières. Est-ce que ça veut dire finalement que sur les petites surfaces à Paris, dans notre bonne vieille ville de Paris, on ne trouvera plus, comme c'était le cas il n'y a pas si longtemps, des studios vides, des petites 2 pièces, et que le marché du saisonnier, du Airbnb, du meublé a tout aspiré.
La pas du gain.
On s'est amusé à chercher, on a screené sur tous les moteurs de recherche, studio, 30 mètres carrés, petites 2 pièces, dans Paris, 95% de l'offre, c'est que du meublé.
Alors donc, ce que je vous disais, la pas du gain, la fiscalité favorable, mais alors
fiscalité,
ils avaient quand même réussi à passer la loi contre la fiscalité des beaux meublés. Et vous vous souvenez du cirque que ça a été? Ils l'ont finalement pas appliqué. Et donc aujourd'hui, on revient en arrière. Donc on dit à toutes les personnes qui font des beaux meublés, eh bien, vous avez raison, restez comme vous êtes, et surtout,
Sauf qu'ils n'ont pas les mêmes
videz Paris des lots vides
sur le DPE,
pour que les Français ne puissent plus loger.
Les Parisiens peuvent plus loger d'ailleurs. La preuve, c'est qu'ils quittent Paris.
Les obligations de DPE. Ils ont pas, Airbnb n'a pas les mêmes obligations de DPE que quand on loue en loi de 89 vide ou loi de 87 meublé.
La loi d'Anaïg Le Meur, députée, qui normalement devrait être reprise et opérée, va finalement dans le bon sens.
Mais quel temps perdu. Mais évidemment que ça va dans le bon sens, mais quel temps perdu.
Combien de fois on vous appelle par jour pour la location ?
Ah, franchement, je ne le compte pas. Je vais juste vous donner un exemple, effectivement, d'un studio qu'on a mis la semaine dernière en location. On a eu 450 demandes. Les gens nous supplient. Ma collaboratrice est venue me voir en me disant il y a 3 personnes à l'accueil pour l'appartement à louer dans le 15e, le studio. Enfin, sincèrement. Ils viennent jusqu'à mon bureau. Et on pense que la situation, elle va être durable. Non, c'est une catastrophe.
Ça doit être tragique quand on voit des gens désespérés.
C'est tragique. Ils disent mais qu'est-ce que je dois faire pour le louer ?
Mais vous ne les publiez même plus.
En fait, on les publie une demi-journée. On publie les annonces une demi-journée de telle manière à ce que on enregistre assez de demandes pour les louer et les retirer de nos réseaux.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger dans une zone aussi tendue que la vôtre le flux de location ? C'est quoi ? Vous avez des solutions ?
J'ai des solutions, mais moi elles vont pas plaire.
On vous écoute.
Moi, je pense qu'il n'est pas interdit d'interdire. Si on veut un jour que Paris ne soit pas une carte postale, une ville carte postale, il faut interdire les meublés de courte durée.
Ça veut dire plus de Airbnb à Paris.
Je ne vais pas me faire des amis, mais
d'autres maires de France l'ont fait.
Mais en fait,
je prends le cas de Saint-Malo.
D'autres maires courageux. Vous avez oublié le terme courageux. Mais la réalité, c'est qu'on a des rues entières qui ont été vidées. Des Parisiens.
Oui, très juste.
Vidés. Et qu'aujourd'hui, en guise de commerce, nous avons des... Vous savez, des ventes de Tour Eiffel, là, des ventes de... Comment...
De souvenirs, là.
De souvenirs. Mais on en rigole, mais moi, ça me donne envie de pleurer.
Je vais vous dire, Paris perd à peu près 10 à 15 000 habitants chaque année depuis... C'est plus de 100 000 habitants qui ont quitté Paris. On ne trouve plus, effectivement, à se loger.
Et qui dit habitants quittant Paris ? C'est nos collaborateurs qui quittent Paris.
Et pour les meublés, vous êtes favorable à une fiscalité unique qui rassemble entre bail vide et bail saisonnier, enfin...
Statut du bailleur privé, depuis le temps qu'on le demande. Ça va être aussi l'une des premières actions, je l'espère, du ministre du Logement, c'est de prendre enfin ce dossier en considération. Parce que l'objectif, c'est de redonner du pouvoir d'achat vers... Aux propriétaires fonciers.
Bien sûr. Alors, le statut du bailleur privé, c'est un enjeu majeur sur lequel vous travaillez depuis longtemps. Vous avez aussi, bien évidemment, les problématiques qui sont liées au DPE. Et je regardais, vous savez, les obligations légales. Au 1er janvier 2025, les locations qui sont en étiquette G au diagnostic de performance énergétique seront impropres à la location. Mais par contre, il y a une chose que je n'avais pas vue. C'est qu'il y a un effet rétroactif, c'est-à-dire que même les baux en cours sont frappés de la même obligation. Les baux signés, même avant le 1er janvier 2025, sont quand même soumis à cette obligation. Il devait y avoir une dérogation ou une exemption de l'effet rétroactif, c'est pas le cas a priori. J'ai posé la question, on m'a dit oui, effectivement, les baux en cours. Donc c'est-à-dire qu'un locataire pourrait être fondé à saisir la commission ou des instances pour demander au propriétaire de faire les travaux.
Alors, j'en étais resté, moi, au fait que c'était pas rétroactif. Maintenant,
c'est pas clair, parce que j'ai posé la question en disant non, effectivement, les baux en cours sont concernés. J'ai posé la question notamment à...
C'est peut-être concerné dans le cadre du renouvellement du bail.
Du renouvellement du bail. D'accord.
Soit le propriétaire aura 3 ans.
C'est ça.
Pour réaliser les travaux. Moi, vous savez, la rénovation énergétique, je suis favorable. Dans son ensemble.
Comme tous les professionnels.
Mais bien sûr que oui. On a besoin de l'immobilier propre. L'immobilier qui ne surconsomme pas. C'est une évidence. Vous connaissez toujours mes combats. Le calendrier n'est pas tenable. Il faut corriger ce calendrier. Maintenant, on n'y croit plus. Mais on reste avec les mêmes demandes. Pour autant, il va falloir trouver des solutions. Nous, on a pris ce dossier-là, sincèrement, à bras-le-corps. On rénove tous azimuts, on isole les murs, on change le mode de chauffage, on change les ballons d'eau chaude en extra-plat, on change les huisseries. On fait tout ce qu'on peut, à marche forcée. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde va sortir la tête de l'eau.
C'est très clair. On va parler, il nous reste 2 minutes, je voudrais qu'on évoque votre actualité qui est très, 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 très forte. Normal, on est sur le deuxième semestre 2024. Alors, vous êtes le cofondateur d'un événement qui aujourd'hui et maintenant s'est inscrit dans le paysage de la profession, c'est le Cercle des managers de l'immobilier, animé par Henri Buzicazo. Et le prochain, on peut l'annoncer,
le prochain
webinaire sous forme de webinaire a lieu, et c'est gratuit, je crois. Hein.
C'est gratuit, évidemment.
Voilà, connexion gratuite, c'est le 17 septembre à 18h. On peut s'inscrire, bien évidemment, en tapant Cercle des managers sur le site internet directement. Vous allez consacrer ce numéro à la loi de finances 2025, justement, quid du logement. Vous avez aussi une autre actualité, vous avez aussi vos événements que vous faites au pavillon Dauphine avec l'UNIS Île-de-France. Je crois que le prochain numéro est courant novembre, mais on informera le public, qui a lieu toujours au pavillon Dauphine. Hein.
Toujours au pavillon Dauphine, on reçoit plus de 400 professionnels voilà. À chaque événement.
Et vous le faites, je crois que c'est 3-4 fois par an, quasiment.
3 fois par an.
3 fois par an, qui rassemble quand même, c'est un événement marquant. Et vous avez enfin le fameux congrès de l'UNIS qui a lieu cette année.
Exactement, voilà. il a lieu à Rennes. Et on est ravis d'accueillir tous les professionnels. On est déjà plus de 600 professionnels de la France entière. Donc on est tous réunis pour envisager l'avenir de notre profession et pour pouvoir essayer d'être optimiste dans la crise que nous vivons.
Ce numéro du Cercle des managers, vous allez le consacrer à la loi de finances, qui va être le poil à gratter ou le talon d'Achille peut-être du Premier ministre. En tout cas, la première tâche la plus ardue, c'est un, d'essayer de boucler le budget, ce qui à mon avis va pas être simple, et ensuite de le faire voter. Dans ce projet de loi de finances, vous allez œuvrer, je suppose, pour que le logement prenne une place déterminante.
Oui, alors pour que le logement prenne une place déterminante, et puis on reçoit Lionel Kos, député, Frédéric Falcon et Stéphane Peu, tous les trois députés, pour justement qu'on évoque cette loi de finances. Parce que, je le répète, sans moyens, nous ne ferons rien. Voilà, c'est pas compliqué. Soit on nous donne un budget et on sera en mesure de faire, soit on ne nous donne pas de budget et on repoussera le problème à plus tard. En tout cas, si je devais dire un dernier mot à notre Premier ministre aujourd'hui, ce serait de lui dire vos objectifs, rénover plus, construire plus, investir plus, ça doit être les thèmes pour le marché de l'immobilier à venir.
On attendra d'ailleurs toutes ces réponses avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de vigilance avec vous. Benjamin, voilà, toujours aussi en forme, hein, Benjamin.
Ah, très en forme.
En tout cas, une chose d'actualité domine véritablement ce que va devenir le logement. On espère bien évidemment que la confiance sera restaurée, parce que ce qui est tragique, c'est quand même on a plus de 2,5 millions de foyers qui sont aujourd'hui dans des hébergements d'urgence et en état de précarité de logement. Et c'est plus de 4 millions de foyers qui sont mal logés au sens propre du terme, sans compter le nombre de personnes sans domicile qui a quasiment doublé. Je reprends les termes du dernier rapport qui a été publié en février 2024 par la Fondation Abbé Pierre. C'est Christophe Robert qui était venu sur notre plateau. Donc les situations du logement sont quand même très, très puissantes et malheureusement, on n'a pas l'impression que le fléchissement politique aille dans le bon sens. On va donc espérer. Avec
espérons,
vous, Benjamin
espérons.
Darmouni. Voilà, c'est la fin de notre 16e numéro de Avis d'Expert, toujours avec Benjamin Darmouni, patron du cabinet Maurice Burger et bien sûr impliqué dans le monde syndical en Ile-de-France notamment. On vous retrouve le mois prochain, Benjamin.
Merci Sylvain.
Voilà, d'ici là, prenez soin de vous. Le podcast est disponible comme d'hab sur l'application de Radio Immo, mais aussi sur tous les moteurs de recherche. Vous tapez simplement le nom de Benjamin Darmouni, par exemple, ou de Radio Immo, et vous retrouvez bien sûr notre podcast directement. N'hésitez pas à liker, commenter, toujours avec beaucoup de bienveillance. On se retrouve le mois prochain.
Avis d'expert, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.